Le jeu des différences.
On se retrouve chez Mimi un mardi matin pour notre première vraie conversation. Elle est entre des essayages costumes et des rendez-vous. On s'assoit, heureux d'être ensemble. On ne sait pas exactement comment vont se dérouler nos entretiens, mais nous sommes d'accord sur l'essentiel. On ne se dira que la vérité. Aucun de nous n'est inquiet. Nous sommes même impatients. Nos regards croisés sur nos vies respectives sont une chance unique. À quel âge as-tu pris conscience de ta différence ?
Très tôt. Maman m'a raconté que lorsque j'avais 4 ou 5 ans, alors que nous faisions les courses dans la boucherie du petit village où nous passions nos vacances, des clientes se sont mises à chuchoter lorsque nous sommes sortis du magasin. Je suis revenue sur mes pas, et au beau milieu de la boutique, j'ai tournoyé sur moi-même, puis je leur ai demandé si elles étaient certaines d'avoir bien tout vu. Et je suis ressortie.
Étais-tu déjà consciente d'être différente ? T'en avais-t-on parlé ?
Mes parents m'ont expliqué très tôt ce qui m'arrivait. Pourtant, à ma naissance, personne n'avait remarqué quoi que ce soit. C'est venu un peu plus tard. Ma cousine était née presque en même temps que moi, et ma grand-mère avait tricoté les mêmes brassières pour nous deux. Celle de ma cousine lui allait parfaitement. Mais ma grand-mère s'est rendue compte que mes bras étaient un peu perdus dans les manches trop longues. C'est elle qui en a parlé à mes parents. Ils ont fini par consulter, et un médecin leur a dit que je ne grandirais pas comme les autres enfants, que j'étais achondroplase, et surtout que j'avais de fortes chances de ne pas dépasser 75 cm de hauteur. La « doctoresse », comme l'appelaient mes parents, a évoqué la possibilité d'une opération. Mais il aurait fallu que je reste allongée coudes et genoux écartelés par des ferrailles pendant 2 ans, pour peut-être gagner 10 cm. Seuls mes membres sont différents. J'ai les bras et les jambes plus courts. On m'a alors prescrit des injections. Cela a duré 1 an. Mon père devait me les faire lui-même dans le ventre ou derrière le cou. Pas évident pour papa. J'appréhendais chaque soir ce moment où je voyais la casserole chauffer sur la gazinière pour le bain-marie destiné à stériliser la seringue. Ces piqûres, qui n'étaient pas des hormones, étaient destinées à, soi-disant, fortifier mes cartilages. Je ne suis pas sûre qu'elles aient servi à grand-chose.
Te souviens-tu de la façon dont tes parents t'ont parlé de ce que tu avais ?
Dès mon plus jeune âge, ils m'ont expliqué que je n'étais pas comme tout le monde, mais que je m'en sortirais, que ça pouvait arriver dans n'importe quelle famille et que c'était tombé sur moi. Ma petite sœur, Marie, née 3 ans après moi, est tout à fait normale, de même que mon autre sœur, Frédéric. Je suis l'aînée des trois, mais on a souvent l'impression que je suis la plus jeune. Mes parents m'ont toujours présenté ce qui m'arrivait comme une différence et non comme un handicap. Je pense que cette approche, sans aucun catastrophisme ni aucune dramatisation, m'a permis d'assimiler ma situation naturellement. Par contre, je me souviens qu'au départ, j'ai eu beaucoup de mal à croiser des gens comme moi. Peut-être cela renvoyait-il à une part inconsciente de moi-même, je ne sais pas. Je me suis toujours vue telle que j'étais. Mais peut-être qu'au fond, je ne veux pas me voir comme je suis. Certains acceptent de vivre dans ce monde en se disant qu'il est le leur et qu'ils peuvent s'y structurer. C'est ce que j'ai choisi de faire. J'ai refusé de rester enfermée dans une case qui me résumerait à ma taille. On ne va pas créer une association sous prétexte qu'on n'atteint pas les yaourts qui sont sur la 3e étagère du rayon du supermarché. Nous sommes tous différents. J'ai toujours considéré qu'être de petite taille n'est pas un handicap, mais juste une caractéristique, une particularité à gérer. C'est une autre façon de vivre la différence. Je ne prétends donner aucune leçon. Chacun fait comme il peut. Certains se construisent sur leur singularité, qui devient leur identité. D'autres sont assez forts et assez entourés pour accepter d'entrer dans la vie telle qu'elle est. J'ai préféré vivre dans le monde et surtout ne pas m'isoler. Mais je comprends complètement que des gens différents aient besoin d'adaptation pour vivre dans l'environnement qui est le nôtre. Et toi, à quel âge as-tu appris que tu avais été adoptée ?
Aussi loin que je m'en souvienne, je l'ai toujours su. Mes parents m'en ont parlé, comme chez toi, très naturellement. Papa en parlait de façon assez factuelle et ma mère abordait toujours le sujet avec une culpabilité qui n'était pas liée à nous, mais à elle. Elle se condamnait pour n'avoir pas été capable d'avoir d'enfants par elle-même. Cela a pesé extrêmement lourd dans son parcours de femme. Elle en était complexée, bien que personne ne lui en ait jamais fait le reproche. Mes parents ont adopté deux enfants, en France, car à l'époque, il était quasiment impossible d'adopter dans d'autres pays, comme cela se fait régulièrement aujourd'hui. Mon frère est plus âgé que moi de 3 ans. Je suis arrivé à la maison à l'âge de 6 mois. Je n'ai donc pas d'autres souvenirs antérieurs. Je me souviens d'une conversation très forte avec ma mère. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Je lui avais posé des questions sur mes vrais parents, sur les raisons qui pouvaient pousser des gens à abandonner leurs enfants à la naissance. Elle a su me faire passer l'idée que je n'avais pas été rejeté pour moi-même, mais que pour des raisons ou des problèmes qui n'avaient rien à voir avec moi, mes géniteurs n'avaient pas pu ou pas voulu me garder. C'est une notion essentielle, fondatrice, qui m'a protégé. Avec le recul, je réalise combien cette conversation a dû coûter à maman, qui n'était déjà pas à l'aise sur le sujet. Elle devait gérer mes doutes, mais aussi cette culpabilité, cette auto-condamnation qu'elle s'infligeait pour n'avoir pas réussi à donner la vie. Je crois que, sans le définir, j'arrivais déjà à sentir ce sentiment en elle. Ce jour-là, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Parfois, ceux qui font les enfants ne sont pas les mêmes que ceux qui les aiment. Cette formule m'a marqué. Elle ne résume en rien les milliers de cas différents qui peuvent exister, mais dans la tête du gamin que j'étais, elle a été une clé. À mon frère adoptif et à moi, ma mère a toujours expliqué que pour élever des enfants que l'on n'a pas fait, il faut encore plus d'amour. Et le fait est qu'on en a reçu des tonnes.
Tu étais très jeune pour avoir des discussions aussi profondes.
Tous ceux qui affrontent quelque chose le savent. Les vrais problèmes nous poussent à mûrir plus vite. Instinctivement, on tente de se soigner ou de se libérer de ce qui nous entrave. Ce n'est pas une question d'âge. Tu le sais toi aussi, n'est-ce pas ?
Mûrir plus vite, je ne sais pas. Mais je suis certaine que les problèmes nous apprennent à avancer plus droit. On me reproche parfois ma façon directe de questionner et de parler vrai, sans prendre de détours. Mûrir, c'est peut-être aussi ne pas se voiler la face et savoir affronter les vraies réponses en osant poser les questions qui comptent. D'ailleurs, à ce propos, as-tu essayé de connaître ta famille de sang ?
Jamais. Je ne me l'interdis pas, surtout si je peux me découvrir des frères et sœurs, mais je m'étais juré de ne jamais le faire du vivant de mes parents, par loyauté envers eux, pour ne pas retourner le couteau dans la plaie, surtout vis-à-vis de ma mère. Le fait est qu'ils sont décédés, mon père depuis 20 ans et ma mère 10. Mais je n'éprouve toujours pas l'envie de mener cette quête-là. J'ai quand même vécu un épisode très impressionnant. Mon frère et moi avons toujours su que nous avions été adoptés. Quand nous partions en vacances, mes parents mettaient en sûreté une pochette toute râpée en faux cuir marron. Elle contenait les actes de propriété de la maison, tous les papiers officiels essentiels qui ne devaient pas être perdus ou volés. Elle renfermait aussi nos dossiers d'adoption. Au décès de ma mère, j'ai été obligé de vider la maison de mon enfance. Et un beau matin, à 10 heures, je me suis assis à la table de la cuisine devant ce dossier. J'aurais préféré ne pas être seul, avoir à mes côtés Pascal, ma femme, ou des potes, parce que je me retrouvais face à une réalité inconnue qui risquait de me sauter à la figure. C'était assez perturbant. J'ai été abandonné, déposé le 27 octobre 1965 devant un dispensaire de la rue d'Assas, à Paris. À cette époque-là, en guise d'état civil, on donnait aux enfants trouvés les prénoms des 3 premières personnes qui les avaient recueillis. Ces 3 prénoms ont donc été mon nom avant mon adoption. C'est en découvrant mon dossier que je me suis aperçu que les 3 prénoms qui m'avaient servi d'identité jusqu'à ce que je prenne le nom de mes parents correspondaient à ceux des 3 meilleurs amis que j'ai eus dans cette vie. Magnifique hasard. J'y ai vu un joli clin d'œil du destin, un cadeau de la vie. J'ai toujours le papier, jauni, passé, le jugement et les certificats d'adoption.